France Culture.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Politique, l'émission qui prend le temps de connaître un invité pour décrypter avec lui son parcours, son engagement et sa personnalité au rythme de l'actualité. Notre invité est né à Boulogne-sur-Mer il y a 39 ans. Engagement, souverainisme. D'abord séduit par Jean-Pierre Chevènement, longtemps avec Nicolas Dupont-Aignan, désormais bras gauche de Marine Le Pen, dont il soutient la candidature jusqu'au bout, malgré la récente condamnation, elle a fait appel. Parcours d'élite à Henri IV, prépa littéraire, diplôme de l'ESSEC et de Sciences Po. À Paris, il travaille dans une crêperie pour financer ses études et 7 mètres carrés de chambre de bonne, maire, secrétaire, père, dirigeant d'usine. Le gaullisme, c'est ce qu'il revendique. Il attend que Marine Le Pen entame un virage chahuté pour rendre hommage au général avant de la rejoindre. Novembre 2020, le Rubicon est franchi, lui qui était critique du parti à la flamme. Rupture avec Debout la France, 2021, il est élu conseiller régional de la Somme. De plus en plus proche de Marine Le Pen, il est son directeur adjoint dans la campagne. 2022, première élection législative remportée. 2024, dissolution, réélection. Adepte des phrases choc au point de parfois les regretter. Il a rédigé le programme économique de Marine Le Pen, il nous dira où trouver des économies. Il a fait une entrée fracassante sur la scène politique, propulsion ou comète. On tentera d'y voir plus clair. Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour madame, merci pour votre invitation.
Et merci à vous de l'avoir accepté. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Le site de France Info a fait les comptes. Un an après votre élection à l'Assemblée, en 2023, vous aviez voté en faveur de 57% des principaux textes du gouvernement et contre dans 29% des cas. Vous êtes un allié d'Emmanuel Macron, finalement, Jean-Philippe Tanguy ?
Non, nous sommes presque son pire ennemi en n'étant pas dans la caricature. C'est-à-dire que quand vous votez des textes de bon sens ou parfois beaucoup de textes techniques, parce qu'il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de conventions fiscales, de traités bilatéraux, multilatéraux, bon, qui sont en fait techniques ou de bon sens ou de bonne aloi. Et en fait, en n'étant pas dans la caricature, nos critiques sur les textes vraiment politiques sont beaucoup plus fortes sur les retraites, sur le budget ou sur des sujets symboliques aussi importants, par exemple, que la défense du drapeau bleu-blanc-rouge contre le drapeau européen, c'est-à-dire en fait la souveraineté de la France contre l'Union européenne. Je pense que notre opposition est farouche.
Vous votez pour sur le pouvoir d'achat, la programmation militaire, les Jeux olympiques, la construction de nouvelles installations nucléaires. Il n'y a pas que du mauvais dans ce bilan.
Il y a surtout aussi des lois qui sont issues en fait de la pression politique que nous exerçons, nous, le Rassemblement National, ou les partis d'opposition, parfois la gauche.
La programmation militaire, c'est quand même une volonté de Emmanuel Macron, de Sébastien Lecornu.
Historiquement, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, dans ses premières années, voulait désinvestir dans l'armée. Il a changé d'avis, tant mieux. Mais c'est la pression objective du Rassemblement National et de certaines personnalités de droite qui ont fait qu'on a amélioré la programmation militaire. Alors, pas assez à nos yeux, mais quand même, sur le pouvoir d'achat, c'était quand même la campagne objectivement Marine Le Pen, même nos adversaires ont reconnu qu'elle avait fait le choix, par exemple contre Éric Zemmour, de mettre le pouvoir d'achat et la justice fiscale au cœur du programme, et donc on les a forcés à faire la prime Macron, bon, qui n'était pas du tout satisfaisante, mais c'était mieux que rien. C'est aussi un vieux principe de la gauche samarienne, hein, dont je viens, Monsieur Ruffin le dit parfois aussi, il faut savoir rapporter aux classes populaires ce qu'on peut. Donc la prime Macron, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien.
Cette semaine, vous avez une fois de plus voté avec le Bloc central pour défendre la loi Duplon, qui allège les normes environnementales pour les agricultures. Et nous avons reçu cette question de la part de Nicolas sur Instagram. Croyez-vous que le fait de rétablir des pesticides cancérogènes soit une bonne action de votre part ?
Mais parce qu'ils ne sont pas cancérogènes. Moi, je comprends la question de ce monsieur, son inquiétude. Il y a beaucoup de désinformation qui passe sur ces pesticides. S'ils étaient cancérogènes, je ne les aurais pas rétablis, ils ne seraient pas homologués, autorisés. Ils sont à la fois homologués par les services européens et les services français. Ils sont autorisés d'ailleurs, en l'occurrence, pour ce qui est du produit autorisé pour les betteraviers ou pour les noisettiers, pour vos animaux de compagnie.
L'acétamipride ?
Absolument. Et donc, il y a beaucoup de désinformations.
Il y a quand même beaucoup d'études qui disent qu'il y a des effets sur le cerveau humain de ce pesticide néonicotinoïde. Hein.
Celui-ci.
Vous les avez lus ?
Oui, moi j'ai tout lu parce que déjà ça m'intéresse. Moi je suis entré en politique par la défense de la souveraineté agricole et industrielle de la France, donc ce sont des sujets très sérieux. Les pesticides, évidemment, ce ne sont pas des produits anodins. Ce ne sont jamais des produits anodins. Et donc, il faut toujours faire un équilibre entre ce qui permet une efficacité économique réelle et aussi un coût de production. Et après, c'est le pouvoir d'achat, parce que si vous proposez des produits agricoles hors de prix, bah, la population ne peut pas les acheter. Et la concurrence déloyale, y compris au sein de l'Union européenne. Si ces produits étaient vraiment dangereux, ils seraient évidemment interdits.
Vous considérez que cette proposition de loi, c'est une forme de rustine pour colmater la crise que vivent les agriculteurs, ou que c'est une proposition de loi d'avenir ?
Non, c'est une rustine. Déjà, ça efface des erreurs hein, du bloc central dont vous avez parlé, des erreurs de la droite aussi, hein, qui passe son temps à défaire ce qu'ils ont fait. Par exemple, ce matin, alors nous sommes mercredi, nous sommes pas samedi.
Oui, nous enregistrons le mercredi 28 mai.
En commission finance, on a effacé une mesure fiscale contre les auto-entrepreneurs que la droite et les macronistes avaient mis il y a seulement 3 mois. Bref, donc tout ça est un peu absurde pour ceux qui nous écoutent, évidemment. On fait et on défait. La vraie question, et là, vous avez sans doute raison, c'est le revenu des agriculteurs. Il faut des prix rémunérateurs. Pour cela, il faut s'attaquer aux forces du marché illégitime et, comment dire, irrationnel. Évidemment, le poids de l'agro-industrie et de la distribution qui pèse à la baisse sur les revenus, et puis le libre-échange déloyal, sauvage. Moi, je suis et j'ai toujours été pour l'exception agriculturelle, et il faut sortir l'agriculture de la mondialisation.
Pourquoi avez-vous voté pour la proposition de loi sur la fin de vie cette semaine ?
Parce que je pense que c'est une liberté humaniste fondamentale de reconnaître que malgré tous leurs efforts, tous leurs engagements, les soignants, y compris en soins palliatifs, ne peuvent pas remédier à toutes les douleurs, ne peuvent pas remédier à toutes les souffrances, et que la fin de vie dans la dignité permet aux personnes dont les douleurs et les souffrances sont insupportables de partir.
Dans votre groupe, vous n'êtes pas nombreux à avoir voté pour, seulement 19 personnes, 101 ont voté contre.
Tout à fait, oui, nous sommes minoritaires, et je trouve que c'est, au-delà de la mesure elle-même que je salue, et dont je me félicite, cette liberté de vote au sein du Rassemblement National, qui était une promesse de Marine Le Pen sur les questions de société, montre que le Rassemblement National est vraiment désormais un grand parti démocratique qui reflète la société française. Et la société française, sur ce sujet, n'est pas liée à des structures partisanes. Et d'ailleurs, il y a eu des oppositions dans tous les partis, alors moins à gauche qu'à droite, c'est vrai, mais il n'y a pas eu d'unanimité sur cette mesure.
Le RN est-il politiquement et économiquement libéral ou social ? Ce n'est pas toujours clair. C'est Vincent qui nous a écrit cette question dans le Val d'Oise.
Mais je comprends cette question, mais déjà, l'opposition entre libéral et social n'a sans doute en elle-même pas beaucoup de sens, parce que le vrai libéralisme, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la soumission au marché et à l'argent roi. Il y a aussi, par exemple, les monopoles naturels comme EDF ou les autoroutes, c'est un concept libéral. Et malheureusement, il n'est pas appliqué par ceux qui se réclament du libéralisme pour faire du fric, pour faire de l'argent, parce que c'est ça derrière. Moi, c'est ce que j'appelle, et je pense que nos démocraties sont aujourd'hui menacées, parce que j'appelle l'extrême argent. C'est-à-dire des gens qui utilisent l'État, ou les services de l'État, ou ses agences, pour faire leurs affaires, et pour faire de l'argent contre l'intérêt général. Mais je pense que nous sommes un parti dans la droite ligne du gaullisme social, qui pense que le travail mérite un juste salaire, que oui, il y a des... comment dire, il y a des inégalités qui sont liées à des injustices et qu'il faut les combattre, et que le travail et la nation sont la solution.
Dans la droite ligne du gaullisme, on va en reparler parce que c'est pas si évident quand même pour un parti comme celui du Rassemblement National. Mais juste pour finir sur cette question de Vincent, prenons un seul exemple, la GPA. Vous y êtes opposé, hein, oui, à la gestation pour autrui, mais par exemple, Julien Odoul, qui est porte-parole du RN, il est venu à votre place en 2023. Lui, il souhaite un référendum.
Oui, non, mais moi, on peut toujours faire un référendum. Moi, je suis toujours pour solliciter les Français sur les questions de société. Je pense que la GPA donne lieu à une indemnisation qui n'a pas sa place. Alors, vous allez me dire, il y a la GPA éthique. Bon, elle est quand même extrêmement marginale dans ce qu'on nous propose aujourd'hui.
Et pour revenir sur le plan économique de la question de Vincent, c'est vrai qu'avec Jordan Bardella, par exemple, vous avez de vraies différences. Lui, on l'a vu par exemple sur les retraites au moment de la campagne des législatives de 2024. Il avait l'air plus du tout en phase avec le programme que vous aviez rédigé en 2022. Il séduit, en tout cas, il essaye de séduire les patrons. Vous n'êtes pas d'accord sur la flat tax. C'est vrai qu'il y a toujours eu, finalement, au sein du Rassemblement National, ancien Front National, ces deux lignes-là. Une ligne qu'on dit plus sociale, une ligne qu'on dit plus libérale.
Bon, sincèrement, ces différences, elles sont très exagérées. Hein. Par exemple, le contre-budget que j'ai préparé, qu'on a présenté avec le groupe Rassemblement National, il a été validé par Jordan Bardella, et dedans, il y avait les mesures de Marine Le Pen. Et le programme définitif des législatives, il était particulièrement fidèle au programme de Marine Le Pen en 2022. Après, dans un grand parti, il peut y avoir des débats, il peut y avoir des différences, c'est pas grave. Que dirait-on si au Rassemblement National, on ne pouvait pas réfléchir, on ne pouvait pas débattre entre nous, à la fin, c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella qui tranchent.
Mais ce qui compte aussi pour les électeurs, c'est de savoir ce que vous allez faire une fois que vous êtes au pouvoir.
Vous avez parfaitement raison.
Donc, qui peut nous dire qu'une fois au pouvoir, par exemple, vous reviendrez vraiment sur la réforme des retraites, comme vous le souhaitez, vous, Jean-Philippe Tanguy?
Ce sont les arbitrages de Marine Le Pen. Et puis, le fait que, comme au Parlement, le premier texte de notre niche parlementaire, chaque année, les groupes sont libres de présenter des textes aux autres groupes, et bien, nous avons proposé l'abrogation de la réforme des retraites et le retour à 62 ans. La gauche ne l'a pas soutenu, mais quand les gauches et les communistes vont le refaire à nouveau, proposent cette abrogation, nous, on la vote. Voilà. Donc, le sectarisme,
il n'est pas... Mais quand vous êtes aux portes du pouvoir en juin dernier, Jordan Bardella sur RTL, le 11 juin, dit « nous verrons » sur cette abrogation. Parce que ça a dû vous...
Non, mais parce que alors, il faut aussi comprendre on a un peu de temps aujourd'hui. À l'époque, le programme est en train d'être réactualisé. Et donc, les arbitrages finaux, c'était le maintien de la réforme de Marine Le Pen, c'est-à-dire un départ à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, 62 ans pour les autres, et plus tard, évidemment, pour ceux qui, comme moi, ou sans doute comme nous ici, ont eu la chance et l'opportunité de faire des études et de commencer tard dans la vie, et donc avec souvent des métiers moins difficiles.
Nous sommes réunis ici grâce à l'engagement de Marine Le Pen qui, la première ici, dans le paysage politique, a été la première à lever la question du pouvoir d'achat. Et je le tiens à la remercier au nom de tous les gens qui, à cette heure-là, vont se lever pour que le pays tienne debout. Alors, silence ! Alors ! Oh, ce cri du cœur ! J'avoue,
Monsieur Tanguy, s'il vous plaît.
Qui a inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous.
Chers collègues.
Je vous en prie, collègues de gauche.
Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. France...
Silence pour la France.
Jean-Philippe Tanguy à l'Assemblée nationale, à la tribune plus exactement, lors des débats sur le projet de loi du pouvoir d'achat le 22 juillet 2022. Deux ans plus tard, vous la repostez sur vos réseaux sociaux, vous assumez totalement. C'est vrai que c'est resté, c'est à ce moment-là sans doute que les Françaises et les Français vous ont découvert.
Oui, il faut rester très modeste. Hein. Vous savez, nos compatriotes ont beaucoup de choses à faire dans leur vie. Ils mettent beaucoup de temps à vous identifier et ils ont bien raison. Ça fait partie des petits éléments qui peuvent vous faire remarquer. Mais vous savez, il y a des gens, quand ils me croisent, ils me confondent avec Sébastien Chenu, ce qui ne me dérange pas parce que c'est mon ami, ou Julien Oudoul, tiens. Donc, vous savez, il faut rester très modeste. Les hommes politiques qui pensent qu'on les reconnaît, vous savez, faut vraiment raison garder. Hein.
Cette question de Nicolas qui nous écrit depuis Reims, n'avez-vous pas le sentiment de conduire le débat à l'excès dénué de fond ?
Bon, je trouve ça un peu injuste. La vidéo qui a le mieux marché de mes débats, c'est des débats de fond. C'est ma vidéo sur la dénonciation des ingérences étrangères et de la guerre économique. C'est mes vidéos sur le budget. Voilà, bon, je suis pas là pour me lancer des fleurs, c'est pas le sujet, mais je pense que c'est un peu injuste. Après, ce que je dis souvent, d'ailleurs je le disais dans ce petit discours que j'ai improvisé, hein, parce que c'est Marine Le Pen qui devait parler, mais en fait moi je suis du soir et Marine Le Pen du matin, et là il était 4h du matin, donc c'était pour moi. C'est pour ça que je parle des gens qui se lèvent tôt. Et au-delà de la... J'ai aussi un peu de légèreté. C'est-à-dire que moi, je fais partie de des personnes qui pensent que l'humour a sa place en politique, que la dérision, l'autodérision, moi, aucun problème à ce qu'on se moque de moi. C'est pour ça aussi que je l'ai reposté. Et qu'il faut avoir un peu de recul sur soi-même. Et je pense que nos compatriotes, dans des moments difficiles, douloureux, ont aussi besoin que ceux qui les dirigent aient un peu de recul sur eux-mêmes. En tout cas, j'essaie de m'amuser de moi-même.
On ne vous le reproche pas sur le terrain, parce qu'on a eu des questions assez critiques. Hein. Qu'est-ce qui vous a rendu aigri ? Pourquoi ce style de roquet ?
Non, au contraire, je me balade dans Paris, je me balade dans Amiens, dans ma circo. J'ai rarement d'agressivité contre moi. Je pense que les gens ont compris que c'était plutôt de l'humour.
En tout cas, vous en sortez souvent, hein, des petites phrases comme ça qui sont reprises en boucle. Il faudrait prévenir François que Monsieur Bayrou est au pouvoir sur LCI le 14 avril. On fait du Jurassic Park, on va chercher des fossiles à propos de Michel Barnier le 5 septembre 2024 sur France Inter. Vous êtes excusé entre-temps. Est-ce que c'est votre style ? Est-ce que parfois on parle trop vite ? Ou c'est surtout la lessiveuse des chaînes info qui conduisent à ce genre d'excès, selon vous, Jean-Philippe Tanguy ?
Non, c'est que qu'il ne risque rien à rien. Non, mais non, je me suis excusé sur Barnier, non pas sur cette formule, mais quand j'ai dit que c'était l'homme le plus stupide de la Ve République. Voilà, bon là, c'était pas terrible. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de difficulté à reconnaître mes erreurs aussi. Certaines personnes pensent que reconnaître une erreur, c'est s'affaiblir. Moi, pas du tout. Donc, moi, quand je commets une erreur, je m'excuse. Voilà, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Et j'y vois pas malice. Après, vous savez, aussi pour nos compatriotes sont saturés d'informations. Et je pense aussi que certaines formules permettent de faire découvrir d'autres thèses, d'autres sujets et d'attirer nos compatriotes sur des thèmes de fond.
Mais il vous plaît cet environnement ou vous le critiquez en privé ?
L'environnement médiatique ? Non, je critique pas en privé. J'ai jamais attaqué, par exemple, les journalistes. Ça, c'est une critique que je ne fais jamais. Non pas pour être spécialement sympathique avec eux, mais déjà, je pense que c'est la démocratie et qu'on fait partie d'un même système d'équilibre des pouvoirs et que c'est trop facile d'attaquer les journalistes. Et pareil, moi, peut-être une spécificité que j'ai sur les souverainistes, et ça, c'est une critique que j'ai souvent fait aux souverainistes, c'est leur mélancolie permanente, c'était mieux avant, tout ça me fatigue. Il faut prendre la France telle qu'elle est, moi, je l'aime telle qu'elle est, il faut l'embrasser telle qu'elle est, et espèce de vieux, de mélancolie permanente, je pense, atteinte à nos idées, parce que les Françaises et les Français, ils sont dans le réel, ils sont dans la vie, ils veulent un avenir pour leur enfant, ils veulent pas regarder dans le rétroviseur en permanence, et puis le passé, comme disait Karl Lagerfeld, il était pas si parfait. Hein.
Alors, vous débarquez à Paris à 18 ans, un peu avant, au lycée. Ensuite, vous allez en prépa littéraire, et vous travaillez dans une crêperie à Beaubourg pour payer vos études.
Oui, rue Brise-Milch. Et c'était une expérience très importante pour moi. C'était aussi la liberté, parce que c'est pas pour faire Cosette. Moi, je voulais être libre. Donc, mes parents ne voulaient pas que je m'installe à Paris. Moi, je voulais aller à Paris. Mes parents voulaient pas que je fasse une prépa. Je voulais faire une prépa littéraire, spécialité latin. C'est ça qui m'intéressait. Et c'était pas faire des études soi-disant utilitaristes. Et puis d'ailleurs, après, j'ai pu avoir mes concours. Mais ça met aussi du recul sur soi-même. Ça met beaucoup de recul sur les privilèges des uns et des autres, que rien n'est acquis. Donc moi, je suis pas Cosette, mais on m'a pas non plus donné une cuillère dans la bouche, hein, une cuillère d'argent dans la bouche.
Vous faites un passage à l'école militaire Saint-Cyr.
Oui.
Mais c'est pas votre truc.
Non. Alors pour le coup, voyez, c'était une mauvaise raison. Si j'ai fait le concours, c'est essentiellement parce que les gens se disent « Mais tu ne peux pas avoir Saint-Cyr, tu n'auras pas les épreuves de sport. » Et donc là, c'est un peu de la fierté mal placée. Donc j'ai passé Saint-Cyr, j'ai eu de très bonnes notes au sport, pour la petite histoire. Et après, je me suis rendu compte que cette espèce de fierté mal placée passée, je n'avais pas grand-chose à y faire. Et en plus, si je laissais ma place, c'était un de mes bons amis en liste d'attente, Arthur Larviardant, qui passait et qui lui voulait faire une belle carrière militaire. Donc il avait beaucoup plus sa place dans le service de l'armée que moi. Je ne suis pas très discipliné.
Bon, alors ensuite, vous vous engagez en politique, d'abord auprès de Nicolas Dupont-Aignan.
Oui.
Vous racontez que c'est le seul qui vous a cru sur l'affaire Alstom.
Oui, ça c'est vrai. Oui.
Vous étiez en alternance chez General Electric au sein du cabinet de Clara Gaymard. Oui. Vous racontez qu'elle vous donne une clé USB sur laquelle il y a des documents confidentiels concernant la vente passée d'une filiale d'Alstom. Elle dément totalement cette version. Vous essayez d'écrire à Mediapart pour alerter.
Oui.
Et finalement, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui vous croit, qui vous fait confiance et dont vous devenez l'assistant parlementaire pendant plusieurs années, 2012-2020.
Tout à fait. Alors, j'ai créé Mediapart après Dupont-Aignan, hein, c'est un an après.
Ah.
Non, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est pour être précis dans les faits, parce que je suis sûr qu'un jour, on me le reprochera.
Et comment se fait-il que vous alliez au Rassemblement National plutôt que de rester chez Nicolas Dupont-Aignan? Il y a eu cet accord en 2017, mais vous qui vous dites gaulliste, vous connaissez par cœur l'histoire du gaullisme, du général de Gaulle. C'est étonnant d'aller dans un parti qu'il a combattu, non ?
Oui, mais presque tous les partis l'ont combattu. Hein. La création de l'UMP, c'était... Ah bah si, la création de l'UMP, la fusion du RPR et de l'UDF et de tous les mouvements centristes qui ont mis en échec le général de Gaulle au référendum de 1969. Hein. C'est pas le Rassemblement National, il n'existait pas à l'époque.
Enfin, il y a quand même les héritiers. LR, ce sont les héritiers, non ?
Je ne pense pas, non. Enfin, c'est les Françaises et les Français qui jugeront de qui est héritier de qui. Mais les principaux ennemis du général de Gaulle, c'était les centristes, évidemment. Je veux dire, le Rassemblement National à l'époque, le Front National
à l'époque. Les principaux ennemis du général de Gaulle étaient les centristes.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il l'écrit, il le dit très clairement. D'ailleurs,
et pas l'extrême droite, l'OAS.
Mais l'extrême droite OAS, c'était des ennemis presque militaires, c'était des terroristes. On n'a donc aucune sympathie pour eux, évidemment. Mais les ennemis politiques, ceux qui ont planté le projet politique du général de Gaulle, hein, la trahison de Giscard d'Estaing au référendum, trahison d'un certain nombre d'autres forces politiques, qui ont mis à terre le programme politique du Rassemblement National. L'absus révélateur du général de Gaulle, c'est pas l'OAS.
Non, voilà. Mais vous connaissez quand même, vous voyez bien les oppositions qu'il y a pu avoir.
Mais je connais aussi, madame, je vous remercie de me poser cette question, parce que moi j'ai aucune difficulté à y répondre, le fait que les partis de droite et de gauche aient aussi recyclé beaucoup de gens de l'Algérie française, beaucoup de gens d'extrême droite ont été recyclés à l'UDF par exemple, et on n'en parle jamais. Et en fait, ce qui me dérange dans la caricature du Front National historique, c'est qu'on oublie qu'a été l'histoire de France. Et l'histoire de France, que ce soit le recyclage de personnes peu glorieuses de la collaboration, ou le recyclage de personnalités de la guerre d'Algérie, y compris François Mitterrand, qui, je vous le rappelle, était garde des Sceaux et a condamné à mort un certain nombre de personnes, c'est de transférer la culpabilité sur une seule force politique. Moi, je ne suis pas aveugle sur le passé du Front National, mais je ne suis pas aveugle sur le passé des autres partis.
Et alors, à ce moment, en 2013, vous critiquez beaucoup hein, le Front National. Le général, c'était pas son trip de gouverner en famille. On ne peut pas être pour le rayonnement de la France et pour la fin de l'accueil des étudiants étrangers. On a une tolérance religieuse. Dans la rue, on a le droit de porter le voile. Cette semaine, sur BFM TV, vous disiez le voile est un étendard islamiste. Est-ce que, peut-être pour reprendre la question de Xavier qui nous écrit d'Antibes dans les Alpes-Maritimes, pourquoi être au RN plutôt qu'à LR? Est-ce pour avoir un mandat?
Non, pas du tout, j'aurais eu un mandat, je pense que j'aurais pu avoir un mandat à LR, hein, surtout quand en 2012, il y avait encore de quoi faire. Non, mais sur le voile, je vais vous répondre franchement, je me suis trompé. Moi, j'ai grandi, et donc j'ai suis né à Boulogne-sur-Mer, après ma mère était à Bure-sur-Yvette, à côté des Ulis, en banlieue parisienne. Donc j'ai grandi à côté des Ulis, j'ai fait fréquenter par exemple Diams, qui était au collège aux Ulis, et ce n'est plus la même
chanteuse
société.
Diams.
La chanteuse Diams, je ne l'ai pas connue directement, mais elle était dans le collège à côté. Et quand je vois le parcours d'une personne comme Diams, donc dans les années 90, c'était Girl Power, c'était des manifestations artistiques d'émancipation des femmes, y compris des femmes des quartiers populaires. Quand je vois qu'elle finit avec un voile, je me suis trompé sur ce qu'était le voile quand je fais ces déclarations. Et j'ai sous-estimé à quel point le voile était effectivement l'étendard des islamistes et à quel point les femmes sont toujours l'ennemi des bigots et des extrémistes et que c'est le point d'entrée contre toutes nos libertés. Donc à l'époque, je me suis trompé.
Vous êtes en train de dire que Diams est une islamiste ?
Diams s'est fait pervertir par l'extrémisme, oui. Elle a arrêté de chanter, dit même que la musique est un péché. Donc quand on a un moment de renier toute sa carrière, de renier tout ce qu'on a fait de beau et de bien, et qu'on dit que la musique c'est un péché, je pense que là on est effectivement dans l'islamisme.
Et vous n'avez jamais croisé dans votre circonscription ou sur le terrain des femmes qui ne sont pas islamistes et qui portent le voile ?
Si, tout à fait, mais elles se font tromper par l'islamisme. Mais on peut être manipulé, hein, femme ou homme d'ailleurs. Les hommes.
Il n'y en a aucune qui porte le voile de manière volontaire, comme un.
Ah mais on peut être volontairement, malheureusement, victime de la bigoterie, du fanatisme. Hein, ça, l'histoire malheureusement récente et longue le montre. Hein.
Donc aujourd'hui, vous êtes aligné sur le programme du RN qui est de l'interdire dans l'espace public.
Tout à fait. J'ai même, pour tout vous dire, participé au fait qu'on le maintienne dans le programme.
France Culture, Sens Politique, Astrid de Villene.
Avec moi, il n'y aurait pas eu Mohamed Merah. Français grâce au droit du sol, binational, délinquant récidiviste, le tueur de militaires et d'enfants juifs. Avec son casier judiciaire, il n'aurait pas obtenu la nationalité française et aurait été contraint de quitter le territoire français avant ses crimes. Comme les frères Kouachi, comme Koulibaly, les mitrailleurs de Charlie et de l'hypercacher. Le tueur de Nice, délinquant tunisien, tout comme celui de Villejuif, algérien, tous deux fichés, n'auraient pas eu le droit de rester en France.
Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle, en meeting à Paris le 19 avril 2017, quelques jours avant le premier tour. En 2013, vous dénonciez l'ignoble amalgame de Marine Le Pen qui se demande lors d'un meeting à Nantes combien de Mohamed Merah peuvent se cacher parmi les enfants de ces immigrés non assimilés. Et là, elle le redit en 2017. Ça ne vous pose plus de problème ?
Mais je me suis trompé en fait à l'époque. Et vous voyez, c'est aussi une leçon d'humilité de faire de la politique et d'apprendre de ses erreurs. Et en fait, effectivement, je me suis trompé sur ces déclarations de Marine Le Pen et le fait que j'étais avec M. Dupont-Aignan et qu'on était en combat politique aussi à l'époque contre le Front National fait que j'ai pu dire des choses sur lesquelles je me suis trompé.
Vous dites beaucoup que vous êtes trompé, Jean-Philippe Tanguy.
Mais moi, j'ai pas de difficulté à dire que je me suis
trompé. Mais est-ce que c'est pas pour maquiller une forme d'opportunisme ?
Non, je crois pas. Enfin, sincèrement, vous avez eu la gentillesse de rappeler mon parcours. Je pense que j'aurais pu faire carrière chez les centristes ou n'importe où. Voilà, si j'avais voulu le faire. J'ai quand même passé 8 ans dans une force politique avec Nicolas Dupont-Aignan qui faisait entre 2 et 4%. Je me suis présenté à toutes les élections pour lui avec mes deniers personnels. C'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais je veux dire, dans l'engagement, moi, quand je me plante au régional, il faut sortir 80 000 euros de ma poche. Voilà, il faut les sortir. J'ai fait un emprunt. Je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. C'est que si j'étais opportuniste, j'aurais pas engagé mon argent pour mes valeurs et pour mon programme. Il se trouve que jusqu'en 2015 et jusqu'au moment où Jean-Marie Le Pen est exclu du Rassemblement National, je ne pensais pas que Marine Le Pen aurait le courage d'exclure, non pas la personne de son père, mais la ligne politique que Jean-Marie Le Pen incarnait. Elle l'a fait, et depuis, elle a toute mon admiration et ma considération, et moi-même, un peu d'humilité sur ce qu'on peut croire des gens et des uns et des autres.
Qui sera le ou la candidate du RN en 2027?
Marine Le Pen sera la candidate. Elle est innocente des faits qui lui sont reprochés. Et comme nous sommes dans une justice républicaine, elle pourra le démontrer.
Mais si elle est empêchée?
Je ne vois pas de raison pour laquelle elle pourrait être empêchée, puisqu'elle est innocente.
Bah, peut-être la première condamnation.
Elle bat en appel et donc elle est présumée innocente des faits qui lui sont reprochés.
Vous connaissez Machiavel, Jean-Philippe Tanguy?
Oui.
Gouverner?
C'est dans mes livres de chevet.
C'est prévoir?
Oui, c'est dans mes livres de chevet, oui, tout à fait. Oui.
Donc vous ne vous posez pas la question de soutenir Bruno Retailleau, Éric Zemmour, Jordan Bardella?
Je soutiendrai évidemment candidat du Rassemblement National. Marine Le Pen, et d'ailleurs c'est une de ses grandes forces, a eu le courage de favoriser l'émergence de talents alors qu'elle avait le plus d'influence politique. Je ne connais pas d'équivalent dans le paysage politique français d'une femme d'État, d'un homme d'État d'ailleurs, qui est capable une fois plus au moment où elle a le plus d'influence politique, le plus de pouvoir, de favoriser l'émergence de talents qui sont capables de prendre sa succession.
Vous disiez à l'instant que vous aviez changé d'avis sur cette phrase qui vous choquait beaucoup à l'époque qu'on vient d'entendre de Marine Le Pen. Avec moi, il n'y aurait pas eu de terroristes du Bataclan. Vous pensez vraiment être à l'abri d'attentats terroristes si vous arrivez au pouvoir, Jean-Philippe?
Non, bien sûr, personne ne peut promettre être à l'abri d'attentats terroristes.
Donc c'est du populisme de
dire ça? Non, c'est pas du populisme, c'est que par contre, on peut limiter tous les risques et de faire en sorte que tous les risques soient le plus limités possible. Or, l'absence de contrôle des frontières, l'absence de contrôle des personnes à qui on donne la naturalisation, l'incapacité politique, l'absence de courage à condamner les islamistes et la toute théorie islamiste, mais d'autres, hein, parce que moi, vous savez, je suis pour aussi des choix de la nationalité, des gens qui ont des idées nazies. Hein. Moi, je suis pour interdire toutes les idées haineuses et toutes les idées de sédition. Il se trouve qu'aujourd'hui, les plus dangereuses et les plus offensives sont les idées islamistes. Mais vous voyez, lorsqu'il y a eu la manifestation, là, le comité du 9 mai, chaque année, vous pouvez vérifier, je le fais, j'ai fait un tweet pour demander la dissolution des nazillons qui défilent à Paris. J'ai reçu 53 menaces de mort qui ont donné lieu à 53 plaintes. Donc, je ne suis pas aveugle sur les autres menaces qui peuvent venir de l'extrême droite. Mais la principale aujourd'hui, c'est l'islamisme.
Une question de Régis. Pourriez-vous être Premier ministre et de qui?
Alors là, c'est une question dont je n'ai pas la réponse. De qui, en tout cas, d'un patriote, d'une patriote.
Une question de Yacine sur Instagram. Le RN, après avoir volé le peuple, est-il compatible avec la fonction d'État?
Mais même les ennemis, les adversaires de Marine Le Pen reconnaissent qu'elle n'a pas volé le peuple. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel.
Selon la première instance, détournement d'argent public.
Partisans. Ils considèrent que le parti a utilisé des fonds qui auraient dû être utilisés pour travailler pour le Parlement européen. Mais cet argent aurait été dépensé. Voilà. Bon, même nos adversaires reconnaissent qu'elle n'a pas volé le peuple. Voilà. Là aussi, vous savez, il faut aussi résister au populisme dans tous les sens. Et Marine Le Pen a une grande vertu, c'est qu'elle n'accable pas ses adversaires de reproches qu'elle n'ouvrait pas qu'on lui fasse à elle. Je peux vous donner beaucoup d'exemples où Marine Le Pen n'a pas aboyé avec les loups. Et c'est dommage que la réciproque ne soit pas appliquée.
Vous ne vous considérez pas comme populiste, Jean-Philippe?
Si, je revendique le terme de populiste. Alors, le terme de populiste, c'est pas la démagogie. Malheureusement, il est souvent confondu. Le populisme, c'est un beau courant politique qui prend ses racines dans la Rome antique, dans les conflits entre les patriciens et les populistes, les populares, dont Jules César et d'autres.
C'est pas vraiment l'acception d'aujourd'hui, en effet.
Effectivement, mais c'est dévoyé. Et la démagogie, c'est pas le populisme.
Mais en même temps, vous venez de critiquer le populisme il y a une minute.
Ah, je me suis trompé de terme, ça aurait été démagogique.
Êtes-vous favorable à l'union des droites?
Je suis défavorable à cette notion. Je pense, en bon gaulliste ou en gaulien, qu'on doit dépasser les clivages partisans, qu'on doit rassembler les Français autour de l'idéal national, de l'idéal républicain, d'un idéal de civilisation français, tel que le général de Gaulle le voulait. Il y a des gens de droite avec qui je ne partage pas ces convictions. Il y a des gens de droite qui sont pour la fédéralisation européenne. Il y a des gens de droite qui sont pour que le marché passe avant l'humain. Il y a des gens de droite qui pensent qu'il faut que la nation française ou la civilisation française se dissolve dans l'américanisation ou dans la mondialisation. Voilà, être de droite, c'est pas une identité politique suffisante. Et vous avez des gens de gauche républicains qui sont plus proches de nous que des gens de droite macronistes.
Êtes-vous de droite?
Non, je me définis jamais automatiquement comme ça. C'est pas que j'en ai honte, c'est pas infamant, hein, loin de là, mais je pense que c'est réducteur.
Dans son livre, Jordan Bardella souligne les victoires futures passeront par l'unité du camp patriote, par une capacité à agréger les orphelins d'une droite plus orléaniste. Vous partagez cette stratégie ou ce n'est pas la vôtre?
Je ne pense pas que les héritiers de la droite orléaniste pourront se reconnaître en nous. Je l'espère, hein, peut-être que Jordan Bardella me démentira dans cette volonté de séduire les électeurs de la droite orléaniste. Mais la droite orléaniste, je ne pense pas qu'ils partagent un certain nombre d'analyses. Alors, on peut changer d'avis, évidemment. Il faut rassembler un maximum de personnes. Mais je pense que la droite orléaniste, d'ailleurs c'est son droit et c'est sa liberté, n'est pas sur notre ligne. Et quand ils sont avec nous, et quand ils ont été avec nous dans le passé, hein, notamment j'en ai parlé tout à l'heure avec le général de Gaulle, bon, ils nous ont trahis, nous ont plantés, donc je préfère qu'ils restent loin de nous.
Connaissez-vous Pierre-Édouard Sterrin ?
Bah, je le connais de réputation, puisque le tout Paris ne parle que de cet individu.
Comment vous le décririez ?
Bah, comme un exilé fiscal.
Un sondage qu'il a commandé via le think tank Hexagone a testé le 5 mai dernier uniquement la candidature de Jordan Bardella, excluant celle de Marine Le Pen. Vous êtes intervenu personnellement.
Absolument.
Pour que Marine Le Pen soit testée, au risque de l'effet Streisand, non ?
Non, je ne pense pas, parce qu'un sondage de 10 000 personnes, ça fait du bruit. Surtout qu'à l'origine, il devait sortir le 1er mai, le jour de notre grand meeting de Narbonne avec 5 000 personnes. Donc c'est évidemment un projet politique. Et derrière ça, il y a quoi ? Parce que les gens ils vont se dire, il est dingue. Les sondages, comme d'autres choses, ce sont une arme politique. Donc moi aussi, je suis assez transparent avec les Françaises et les Français. La politique, c'est pas le monde des bisounours. Il y a des coups bas, il y a non pas des grands complots, mais des petites affaires. Et il y a des gens qui s'agitent avec quelques d'argent pour favoriser ou défavoriser tel ou tel candidat et faire des petits coups. Et donc il y a encore des gens loyaux et dignes dans son pays qui ne veulent pas qu'on trahisse la démocratie et qui m'ont averti que ce sondage était fait. Et je me félicite de l'avoir déjoué pour un débat démocratique de qualité. Et si ça concernait la gauche, je dirais la même chose.
Il ne s'est pas rendu... Pierre-Édouard Sterrin, à la commission d'enquête présidée par vos collègues Thomas Cazenave à l'Assemblée nationale sur la démocratie, une commission d'enquête qu'il préside, pardon, sur la démocratie, l'organisation des élections en France, les sondages, l'abstention, avec le député La France Insoumise Antoine Léaumont. Est-ce qu'il a eu raison de ne pas s'y rendre ?
Mais absolument pas. La loi, c'est qu'on doit se rendre aux commissions d'enquête. Moi, j'ai présidé une commission d'enquête sur les ingérences et j'ai moi-même procédé à un certain nombre de plaintes pour des gens qui ne voulaient pas s'y rendre. Et j'ai envoyé la maréchaussée pour aller en chercher un et qui viennent s'expliquer. Voilà. Donc non, les Françaises et les Français sont égaux en droit et en devoir devant la loi. Et c'est pas parce qu'on est milliardaire qu'on doit s'extraire des lois sous des prétextes fallacieux. Et ça en revient à ce que je disais, ce que j'appelle la menace de l'extrême argent. Il y a des gens qui pensent que tout s'achète, y compris la démocratie. Eh bien moi, je pense que la démocratie n'a pas de prix.
Donc ils ont raison, vos collègues, de le convoquer. De... Parce que celui dont vous parlez comme un exilé fiscal, moi là, j'ai pas les informations pour vérifier si c'est toujours le cas ou si ça l'a été.
Si, son excuse d'ailleurs de pas venir, c'est qu'il était en Belgique.
En tout cas, lui, il rend en visite, il voit vos alliés, vos collègues Marine Le Pen, Jordan Bardella.
Oui, mais moi aussi, j'étais dans ces fichiers. Alors, il faut aussi se méfier de ces gens qui font beaucoup parler d'eux. C'est un peu ce qu'avait fait Russie Trump il y a très longtemps, alors dans une beaucoup moindre envergure. Mais c'est avec très peu d'argent faire parler de soi partout. Et donc, ça fait aussi partie des gens qui se font mousser à notre détriment. Vous voyez, on parle que de lui, alors que personne, enfin les Français savent pas qui c'est. Il a aucun rôle politique. Et il y a un certain nombre de médias qui, je pense, en font trop. Et je les invite, franchement, en toute sincérité, à ne pas donner trop de crédit à des gens qui se donnent une influence qu'ils n'ont pas.
En tout cas, vous ne souhaitez pas que ce que vous appelez le camp patriote soit financé par lui, hein, à vous entendre. Hein.
Non, mais pas du tout. Mais déjà, je ne vois pas comment, en tant que patriote, on peut accepter de l'argent d'exilés fiscaux. Je suis désolé, on est patriote, on ne l'est pas. Et donc, quand on estime qu'on peut s'absoudre de la solidarité nationale, eh bien, c'est lamentable. S'il n'est pas content des impôts en France, eh bien, il fallait s'engager politiquement pour combattre ceux qui ont mis ces impôts. Mais la démocratie, ce n'est pas à la carte. Et on n'accepte pas les lois juste quand elles arrangent, tout en gardant sa nationalité. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce genre de comportement. Et je ne vois pas pourquoi je ferai une exception parce que monsieur est milliardaire.
Mais vous pensez que cette position, elle est celle de l'intégralité du Rassemblement National ?
Je ne sais pas, c'est la mienne.
Sens politique, l'archive de l'invité.
Tout sera bouché. Tout sera investi. Il restera la mer quand même. Les océans. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme un jour lira. Et puis tout recommencera. On repassera par la gratuité. C'est-à-dire que les réponses à ce moment-là, elles seront moins écoutées. Ça commencera comme ça, par une indiscipline, un risque pris par l'homme envers lui-même. Un jour il sera seul de nouveau. Avec son malheur et son bonheur, mais qui lui viendront de lui-même.
Pourquoi vous avez choisi la voix de Marguerite Duras à la télévision dans l'émission Les 7 chocs de l'an 2000 sur Antenne 2 le 25 septembre 1985, Jean-Philippe Tanguy?
Je vous remercie d'avoir choisi cet extrait. La première chose, c'est que je trouve remarquable, c'est qu'elle parle comme elle écrivait. Et c'est assez rare d'avoir une artiste, un écrivain, qui traduit par son phrasé la quintessence de ce qu'elle arrivait à produire à l'écrit. Et c'est la liberté. Moi, je suis Marguerite Duras, évidemment, des engagements très différents du mien. Elle était membre du Parti communiste, mais c'était avant tout une femme libre, incroyablement libre, et qui mettait la culture et l'intelligence humaine, et donc la liberté, puisqu'elle en vient, la liberté est la fille de l'intelligence, au-dessus de tout. Et on voit ce qu'est dit ses propos sur le rôle de la gratuité, sur le rôle de la culture, de ce qui ne s'achète pas, de ce qui ne peut pas se vendre, est fondamental dans notre civilisation et dans la vision de l'homme que nous devrions, enfin en tout cas que j'espère que nous allons avoir. Et on ne peut pas fonder une société de justice, une société démocratique, sans ce culte, parce que ce serait renier l'intelligence, mais ce respect de ce qui n'a pas de prix.
Est-ce que, malgré tout, il faut lui consacrer de l'argent public à la culture?
Ah bah bien sûr, mais consacrer de l'argent public à la culture, ce n'est pas lui donner un prix, c'est lui donner une valeur.
Est-ce que dans votre contre-budget présenté en octobre, elle prend un sacré coup, la culture?
Non, c'est que nous concentrons les moyens sur ce qui nous paraît le plus nécessaire, le plus efficace. Je donne un exemple, le Pass Culture pouvait être une bonne idée. Malheureusement, il est dévoyé pour financer des œuvres qui n'ont pas été soutenues particulièrement.
Ça marche très bien, en tout cas.
Oui, mais parfois des œuvres commerciales.
Beaucoup de jeunes en profitent.
Oui, mais dans des œuvres qui, à mon avis, l'école doit aussi sortir les jeunes et les enfants de leur zone de confort et financer l'achat de mangas ou de concerts auxquels ils seraient allés naturellement. C'est pas, pour moi, le rôle.
Il faut flécher le Pass Culture sur certaines œuvres.
Enfin, sur certaines catégories d'œuvres. C'est-à-dire, il faut sortir et c'est le rôle des professeurs aussi, qui connaissent leurs élèves, de les sortir de la zone de confort. Moi, je ne sais pas quelle vie j'aurais eue si je n'avais pas rencontré des professeurs qui m'ont conseillé des lectures, conseillé des œuvres, conseillé d'écouter d'autres musiques que je n'aurais pas écoutées naturellement. Le rôle de l'école.
Donc, on enlève le manga du Pass Culture.
Oui, mais le manga ou d'autres choses. Mais il faut que l'école retrouve sa vocation d'excellence et de sortir les enfants de leurs conditions familiales ou culturelles, d'ouvrir l'horizon. C'est aussi un beau mot de Marguerite Duras, ouvrir l'horizon. Et pour finir aussi sur Marguerite Duras, c'est écrit beaucoup sur la solitude, le sentiment de solitude, à quel point l'art, et j'y vois aussi la politique, permet, elle disait, écrire, c'est hurler sans bruit. Et la politique, c'est un peu l'extrait que vous avez montré tout à l'heure sur Silence pour la France, et aussi ce sentiment. Voilà. Faire de la politique, c'est hurler, s'indigner, se révolter, sans bruit inutile.
Je reviens un instant sur le budget de la culture que vous présentez au mois d'octobre. Baisse des dépenses de fonctionnement opéra et théâtre, baisse du soutien au spectacle vivant, baisse du soutien à l'emploi des artistes, baisse de la recherche culturelle, baisse du soutien aux arts visuels. Mais, 300 millions d'euros.
Oui, mais une fois plus, comment dire, je considère que l'État intervient aussi trop dans la liberté culturelle. Je me souviens de réflexion, c'était Josiane Balasco, quand j'étais beaucoup plus jeune, par exemple, était très critique de l'emprise aussi de l'État sur la liberté culturelle. Il ne faut pas que l'État remplace les artistes. Voilà.
Mais c'est pas le cas aujourd'hui.
Si, aujourd'hui il y a une culture, le ministère de la Culture a une emprise et dicte des choix culturels de manière beaucoup trop importante à mes yeux.
C'est-à-dire,
je trouve, comme dans le monde universitaire, c'est pour avoir, vous avez dit, j'ai fait des études littéraires dans la marginalité. C'est-à-dire, j'avais toujours l'impression qu'on ne respectait pas des gens qui chérissaient la culture, qui aimaient la culture classique, mais qui n'avaient pas la vision de la majorité au pouvoir. Voilà. Bon. Et on ne respecte pas un certain nombre de minorités qui considèrent que la culture classique, la représentation classique d'un certain nombre d'œuvres est aussi légitime que d'autres.
Mais attendez, là, j'ai pas les subventions sous les yeux, mais enfin, je connais bien quand même ce pays, ces territoires et les budgets du ministère de la Culture. La culture classique, elle est financée encore aujourd'hui par l'État, Jean-Philippe Tanguy.
J'estime qu'elle n'est pas financée à due proportion de ce qu'elle représente dans notre héritage.
Mais vous ne proposez pas d'augmentation sur ça dans votre budget.
On propose un recentrage.
Vous disiez en effet que les lectures ont marqué votre engagement, Jean-Philippe Tanguy. Lesquelles en particulier?
C'est une autre Marguerite, c'est Marguerite Yourcenar. Plus importante dans mon parcours, c'est Marguerite Yourcenar en particulier. C'est pas très original, mais c'est les Mémoires d'Adrien que je relis chaque année. Je suis fasciné par la capacité de Marguerite Yourcenar à incarner à tel point une époque et un personnage. J'ai l'impression de vivre la vie d'Adrien à travers elle. Je suis fasciné par cette femme et par la beauté de son œuvre. On ne s'ennuie jamais à la relire, même chaque année. Je suis assez fasciné par l'œuvre de cette femme.
Une question de Françoise sur Instagram. Quel est votre écrivain étranger préféré ?
Alors là, vous me posez une colle. Alors, c'est-à-dire, c'est un écrivain étranger, mais c'est, vous le citez, c'est Machiavel. Alors, est-ce que c'est un écrivain ? Bonne question. En tout cas, il est florentin.
Un dernier mot sur le budget, puisque c'est quand même ce qui va occuper le gouvernement et sans doute aussi vous, puisque c'est votre spécialité, Jean-Philippe Tanguy. Vous avez vu cette alerte du Fonds monétaire international qui se penche sur la France et sa situation. Est-ce qu'il faut écouter ces recommandations qui demandent des décisions difficiles pour redresser les comptes ?
Il ne faut pas que nous croyions que la France serait un pays différent qui ne peut pas respecter un certain nombre de lois de bonne gestion. Ce qui est très inquiétant depuis 2022, c'est l'absence totale de pilotage des dépenses. Nous sommes à l'aveugle. Lors des dernières législatives, j'avais essayé d'alerter sur le fait que les commissaires aux finances, par exemple, ne comprenaient plus la dépense publique. Nous ne comprenons plus pourquoi la dépense publique augmente autant et pourquoi les recettes déraillent autant. Donc il y a une absence de compréhension de ce qui se passe.
C'est-à-dire ? Parce qu'il manque des documents, nous recevons Charles
de
Courson.
Pas du tout de transparence, mais la semaine prochaine. Vous verrez, je pense que Charles de Courson, je ne vais pas parler à sa place, mais je pense qu'il aura un diagnostic très proche. Alors lui-même a des pouvoirs supplémentaires, il est lui-même allé vérifier au ministère de l'économie les raisons du dérapage de 40 à 60 milliards dans les prévisions de recettes, et il en est revenu, je pense, avec la certitude que certain nombre de responsables politiques s'étaient défaussés sur les fonctionnaires pour mentir aux Françaises et aux Français dans une année électorale. Pierre Moscovici dit la même chose, il dit que les dépenses ne sont plus pilotées, qu'elles sont hors contrôle. Quand on connaît la prudence des magistrats financiers de la Cour des comptes, ces mots sont extrêmement forts. Et là, on a un vrai problème et ça vient d'où ? Ça vient du 49-3. C'est-à-dire que les antiparlementaristes ont toujours mis sur le dos du Parlement le déficit budgétaire. Or, les deux années les pires de contrôle budgétaire de toute la Ve République, ce sont les deux années où c'est le gouvernement avec le 49-3 qui a écrit du début à la fin l'ensemble du budget.
Il y a déjà eu des 49-3 sur le budget auparavant et on n'entendait pas des commissaires aux finances dire la même chose que vous.
Écoutez, en tout cas, les années de Mme Borne et de Mme Attal, où ils ont écrit le budget de A à Z, encore cette année, M. Barnier, ce sont les pires budgets. Alors qu'ils ont tout contrôlé dans les couloirs de Matignon et de Bercy. Donc on voit bien que le Parlement, c'est un lieu de contrôle, c'est un lieu de suivi, et que quand on prive la parole et le contrôle du Parlement, eh bien c'est la catastrophe.
Qu'est-ce que vous demandez en un mot, pour être mieux informé ?
La démocratie, le respect du Parlement et des votes des Français dans leur diversité, que ce soit les députés du Rassemblement National ou d'autres partis.
Plus de 49-3 sur les budgets ?
En tout cas, pas dans ces conditions. Il peut y avoir un 49-3, c'est le général de Gaulle qui l'a prévu. Mais là, ça devient une facilité pour, comment dire, couper, outrepasser la démocratie.
Merci Jean-Philippe Tanguy, député RN, d'être venu dans Sens Politique. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Je rappelle, pour toutes celles et ceux qui se posent la question sur le choix de nos invités, que nous respectons les règles de l'ARCOM qui imposent le pluralisme en fonction des forces politiques au gouvernement et au Parlement, y compris hors période électorale. Merci à Léa Varin qui m'a aidé à préparer cette émission, à la réalisation Luc-Jean Reynaud, à la technique Ludovic Auger et à la vidéo Félix Delacour. Très bel après-midi sur France Culture.